Merci d'écouter RFI, Radio France Internationale, en direct de Paris, il est 3h.
Mathis Limano.
Et à la une, l'aide internationale des États-Unis. Elle a été gelée par Donald Trump, le temps de la réexaminer. Mais ses conséquences dans le monde se font déjà ressentir. On est en Afrique du Sud, juste après les titres, où le domaine de la transition écologique subit de plein fouet ses coupes. Le président américain qui accepte de reprendre contact avec Volodymyr Zelensky après l'altercation à la Maison Blanche, puis le gel de l'aide militaire. Les Européens, eux, tentent de prendre le relais. Ils étaient réunis à Bruxelles ce jeudi autour de Volodymyr Zelensky. Les 27 ont donné leur feu vert à un plan de réarmement. L'Europe, où la Banque Centrale abaisse son taux directeur. Explication à suivre avec Agnieszka Kumor. Et puis en France, c'est une figure emblématique de la politique qui quitte son poste. Après 24 ans à la mairie de Lille, Martine Aubry démissionne. Et pour commencer, direction l'Afrique du Sud, où les conséquences du gel de l'aide internationale par Washington se font ressentir, notamment dans le domaine de la transition énergétique. Claire Bargelès, la nation arc-en-ciel a grandement besoin de cette aide, elle qui obtient 80% de son électricité à partir du charbon.
Le JETPI, le partenariat pour une transition énergétique juste, mis en place lors de la COP de 2021, devait être un modèle de coopération entre les nations occidentales et les pays en développement afin de financer le passage vers des modèles énergétiques décarbonés. Et l'Afrique du Sud a été la première à signer un tel accord. Les États-Unis avaient promis 1 milliard de dollars de prêts non concessionnels et 56 millions de dollars de subventions. Mais reste encore plus de 12 milliards engagés par les autres nations partenaires et notamment la France, le Royaume-Uni ou encore l'Allemagne, ce qui fait dire aux responsables que l'accord tient toujours malgré cette décision américaine. Notre engagement en faveur d'une transition énergétique juste ne dépend pas de la contribution d'autres puissances, avait déjà précisé le ministre sud-africain de l'énergie le mois dernier face à la menace de ce retrait américain. Le JETPI n'est qu'un début pour aider le pays à amorcer son programme de transition. Pretoria estime qu'il lui faudra plus de 80 milliards de dollars pour le mettre en place d'ici 2027. Claire Bargelès, Johannesburg, RFI.
Donald Trump et sa passion pour les crypto-monnaies. Il vient de signer un décret pour créer une réserve stratégique de Bitcoin, une importante marque de soutien à l'industrie des cryptos qui avait généreusement contribué à la campagne du républicain. Pourtant, le cours du Bitcoin a immédiatement plongé de 5% après cette annonce, le marché se montrant déçu qu'aucune politique d'achat public de crypto-monnaies ne soit prévue. Donald Trump qui reprend timidement le dialogue avec Volodymyr Zelensky, des échanges sont prévus la semaine prochaine en Arabie Saoudite entre délégations américaines et ukrainiennes. Ce jeudi, c'était au tour des Européens de se réunir à Bruxelles autour du président ukrainien. Le plan à 800 milliards d'euros pour réarmer le continent voté par les 27. Les Européens qui ne veulent pas d'une capitulation, d'un cessez-le-feu qui serait négocié à la va-vite, sans garantie. Déclaration d'Emmanuel Macron à l'issue du sommet. Interrogé sur le fait que Vladimir Poutine les comparait à Napoléon après son allocution de mercredi soir à la télévision, le chef de l'État français lui a répondu.
Je connais bien le président Poutine, donc s'il réagit comme ça, c'est qu'il sait que j'ai dit vrai et que je sais qu'il peut trahir les accords qu'il signe et qu'il l'a déjà fait, que je suis là pour en témoigner, puisque nous étions avec la chancelière Merkel, les garants par le processus de Normandie d'accord de Minsk qu'il a délibérément violé. Ensuite, je pense qu'il fait un contresens historique et ça m'étonne de lui. Napoléon menait des conquêtes. La seule puissance impériale que je vois aujourd'hui en Europe s'appelle la Russie. Et c'est un impérialiste révisionniste de l'histoire et de l'identité des peuples. Et notre volonté, nous, c'est d'être une puissance de paix et d'équilibre. Au fond, tout ce que nous faisons, par les choix, y compris d'ailleurs, de nous armer pour éviter la guerre de demain, ce sont des choix de paix. Et donc je pense que le président Poutine devrait revenir à cette vision-là. En tout cas, c'est un contresens historique. Dans la référence, c'est sans doute qu'il fut piqué du fait que nous avons démasqué son jeu. S'il y a un cessez-le-feu, ça n'est pas pour faire la paix durablement. Ce sera pour mieux reprendre la guerre.
Emmanuel Macron avec Anastasia Becchio. Cet autre pays qui pourrait s'inquiéter du revirement américain dans le dossier ukrainien, Taïwan. Encore ce vendredi, les autorités taïwanaises ont détecté une dizaine de ballons chinois autour de l'île. Pékin qui continue de revendiquer sa souveraineté sur Taïwan. RFI, 5h et presque 5 minutes à Damas. L'Observatoire syrien des droits de l'homme parle des plus violents affrontements depuis la chute de Bachar el-Assad. Ce jeudi, les combats entre forces de sécurité du nouveau régime et partisans du président déchu ont fait au moins 48 morts. Ça s'est passé dans la région côtière de Latakié, au nord-ouest de la Syrie, bastion de Bachar el-Assad. Un couvre-feu a été décrété jusqu'à vendredi, 7h temps universel. L'économie, à présent. La Banque Centrale Européenne abaisse son taux directeur de 25 points de base à 2,5%. Une baisse prudente, alors que l'activité de la zone euro reste faible et que l'imminence de la hausse des taux de douane américains inquiète. Agnieszka Kumor.
C'est la sixième baisse des taux depuis juin 2024. La fin du cycle serait-elle en vue? Trop tôt pour le dire, rétorque Christine Lagarde, la patronne de la BCE. Face à une situation qui change constamment, les gardiens de l'euro naviguent à vue. Le risque d'une guerre commerciale avec les États-Unis provoque un ralentissement des exportations. Les entreprises limitent leurs investissements, l'activité stagne. Résultat, la croissance du PIB dans la zone euro devrait difficilement atteindre 0,9% en 2025, alors que l'inflation pourrait augmenter à cause notamment de la hausse des prix de l'énergie. Mais ce sont les hausses des dépenses de défense, y compris en Allemagne, qui a décidé d'augmenter sa dette publique, qui pourrait doper la croissance dans l'Union européenne. Quid de la suite? La BCE va-t-elle poursuivre ses baisses ou appuyer sur pause? Ces décisions dépendront de l'évolution du conflit en Ukraine, l'Ukraine qui ne peut désormais plus compter sur l'aide américaine.
C'est une révolution pour les prisons françaises, s'est réjoui le ministre de la Justice, Gérald Darmanin, alors que deux prisons de haute sécurité, une dans l'ouest de la France, l'autre dans le Nord, vont accueillir dès cette année les 200 narcotrafiquants les plus dangereux du pays. Un régime carcéral d'isolement extrêmement strict, inspiré de la lutte anti-mafia en Italie. Pour le garde des Sceaux, l'objectif est clair, éviter à tout prix une nouvelle affaire Amra, du nom du narcotrafiquant Mohamed Amra, l'homme le plus recherché de France. Il a été interpellé il y a 2 semaines en Roumanie, après 9 mois de cavale suite à son évasion d'un transfert pénitentiaire. Toujours en France, cette figure emblématique de la ville de Lille. Elle occupe le siège de maire depuis 24 ans. Martine Aubry a annoncé ce jeudi sa démission lors d'une conférence de presse. Le temps est venu de passer la main à une nouvelle génération, a déclaré l'élu de 74 ans. Mais la succession de l'ancienne ministre et patronne du Parti Socialiste s'annonce d'ores et déjà mouvementée, Aurélien Devernois.
La dame de fer du Nord a pour une fois eu du mal à cacher son émotion. Au moment d'annoncer sa démission de son poste de maire, la voix de Martine Aubry s'est étranglée, avant de vite se reprendre pour annoncer qu'elle souhaitait voir son premier adjoint, Arnaud Deslandes, prendre sa succession. 11 mois pour convaincre, avant les municipales, un défi pour ce socialiste méconnu, d'autant que dans les rangs même du PS local, un rival s'est d'ores et déjà déclaré, Roger Vicot, député de Lille. Il faudra donc sans doute passer par une primaire, avant que le gagnant ne se mesure à ses futurs adversaires écologistes insoumis. Et peut-être une alliance entre la droite et le camp présidentiel. Le défi est de taille. L'incontournable Martine Aubry n'avait gagné que d'un souffle en 2020 face aux écologistes. L'ancienne ministre du Travail compte-elle prendre du champ, se consacrer à sa famille? Mais attention, pas question de parler de retraite. Martine Aubry entend bien continuer de peser à Lille, mais aussi au niveau national, alors que le congrès du PS aura lieu en juin prochain. Il faut repenser notre projet de société et prendre ses distances avec les insoumis, professe Martine Aubry, qui rappelle que c'est quand elle était à la tête du Parti Socialiste que celui-ci a connu sa dernière grande victoire. L'élection de François Hollande en 2012.
Et quelques mots pour rassurer les fidèles ce jeudi soir. La voix du pape François a résonné, place Saint-Pierre à Rome. Un court message vocal enregistré depuis sa chambre d'hôpital. D'une voix chevrotante, le souverain pontife remercie pour toutes les prières. François est toujours hospitalisé depuis le 14 février pour une pneumonie. Il est dans un état stable et n'a pas subi de nouvelles crises respiratoires, indique le Vatican. Après la Ligue des Champions, place au 8e de finale aller de la Ligue Europa ce jeudi soir. À noter la bonne opération des Lyonnais en Roumanie, succès 3-1 à Bucarest. Les Basques de la Real Sociedad et Manchester United se neutralisent un partout, tandis que les deux clubs romains, la Lazio et la AS Rome, l'emportent sur leurs adversaires du soir. Et puis Prince of Persia, The Lost Crown, sacré meilleur jeu vidéo de l'année, développé par le studio français Ubisoft. Il a reçu ce prix Paris lors de la 6e cérémonie des Pégases qui récompense les meilleures créations françaises du secteur. Ce jeu d'action d'aventure inspiré des Mille et Une Nuits ravive la flamme de la saga Prince of Persia créée il y a plus de 35 ans. Ce journal touche à sa fin. Merci à vous de l'avoir suivi. Il est 3h10 à Paris. Tout de suite, les voisins et les voisines sur RFI avec Emmanuel Bastide.